Et dans Vue d'Europe, on va s'intéresser maintenant au conflit russo-ukrainien qui dépasse les frontières russes et ukrainiennes. Vous en avez certainement entendu parler la semaine dernière. Les drones russes sont passés au-dessus de la Pologne. Vladimir Poutine lance ses engins au-dessus de la Roumanie aussi. On se pose la question de savoir si l'OTAN va réagir. On en parle ce matin avec notre invité, Sergueï Jirnov, ancien espion du KGB. Il est à votre micro, Lise.
Sergueï Jirnov, bonjour.
Bonjour, Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on a bien l'impression, Sergueï, que Vladimir Poutine a décidé de se frotter aux lignes rouges des Européens et de Donald Trump.
Oui, tout à fait. En revanche, ce n'est pas la première fois. Vous savez, c'est tout simplement parce que l'échelle a changé. Mais les drones russes et les d'autres objets volants russes sur le territoire européen, il y en avait toujours. Il y en avait des avions, il y avait des drones, il y avait des missiles qui passaient sur le territoire roumain, sur le territoire polonais. Je vous rappelle, le 15 novembre 2022, il y avait un missile anti-aérien qui est tombé en Pologne et il a tué d'ailleurs deux personnes à cette époque-là. Et il y avait le G8 à Jakarta. Et donc il y avait les dirigeants de tous les pays, y compris président Biden qui était réuni, président Macron qui était réuni ensemble. Ils savaient pas quoi faire parce que en gros en fait, si l'OTAN répond à la Russie parce que ce sont les objets volants russes qui sont sur le territoire de l'OTAN, il faut enclencher au minima l'article 4 du traité de l'OTAN. C'est-à-dire enclencher les consultations entre les membres de l'OTAN et au mieux l'article 5, c'est-à-dire considérer ça comme une agression et répondre à cette agression. Et donc c'est la guerre avec la Russie. Et en fait ça, l'OTAN a peur de ça, franchement, ils ont peur de répondre correctement à ça. Et même cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle attaque que Poutine a entrepris la semaine dernière. Il y avait à peu près une vingtaine de drones qui sont venus à travers le territoire ukrainien, les drones russes, qui sont venus jusqu'à la Pologne. Poutine ne peut pas dire, même si la Russie a dit, en fait, ils ont dit, oui, c'est une faute, nous ne comprenons pas, nous proposons les consultations entre les militaires des deux pays, mais en réalité, cette attaque, c'est bien une attaque. Parce que c'est pas un drone, c'est pas deux drones. Un drone, deux drones, on aurait pu parler d'une faute, d'une erreur. Là, 19 objets volants armés qui traversent la frontière polonaise et qui pénètrent dans le territoire polonais jusqu'à 300 ou 400 kilomètres à l'intérieur du territoire, c'est une attaque, c'est une vraie attaque. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que ces drones étaient préparés pour cette attaque. Ça veut dire que la Russie est quand même loin de la Pologne si on passe par l'Ukraine. Bien évidemment, la Pologne a la frontière commune avec la Biélorussie. Et si ces drones venaient de Biélorussie, c'est aussi l'attaque qu'on pourrait qualifier aussi de l'État voisin. Parce que Biélorussie fait partie d'une union avec la Russie. Donc Biélorussie et la Russie, en gros, c'est la même chose. Pour Loukachenko et Poutine, ce sont deux dictateurs qui forment une entité. Mais ces drones venaient du territoire russe, donc pour voler aussi loin, ils devaient avoir la possibilité d'avoir le ravitaillement en essence qui est particulier. Et effectivement, on a constaté qu'ils avaient les réservoirs à l'essence qui étaient préparés, qui était conçu pour que ces drones volent beaucoup plus loin que les drones habituels. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que les Polonais et les officiers de l'OTAN ont découvert, c'est que ces drones, pour leur orientation dans l'espace, portaient les cartes SIM polonaises. Et donc, en fait, pour frapper l'Ukraine, vous n'avez pas besoin de mettre les cartes SIM polonaises. Il suffit de mettre les cartes SIM russes ou ukrainiennes, mais pas polonaises. Donc, en réalité, c'était une attaque bien préparée. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il y a une attaque comme ça, si l'OTAN répond comme il faut, c'est-à-dire enclenche l'article 5, ça veut dire que l'OTAN se retrouvera de facto dans l'état de guerre avec la Russie.
Alors c'est exactement ce qu'espère Volodymyr Zelensky, parce que après la Pologne, c'est la Roumanie, donc au-dessus de Bucarest ce week-end. Donc Bucarest a convoqué l'ambassadeur de Russie pour se plaindre. Et Volodymyr Zelensky a insisté en disant que les drones russes et même les F-16 avaient donc pendant environ 50 minutes été dans l'espace aérien de l'OTAN. Donc à un moment, l'OTAN va être obligée quand même de répondre à ces provocations de Vladimir Poutine.
Alors là, je n'ai pas compris par rapport à F-16. La Russie ne possède pas les F-16, hein, les F-16, c'est l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN.
Oui, c'est des F-16 roumains qui ont détecté les drones, pardon, qui survolaient donc l'est de la Roumanie au-dessus d'eux pendant donc 50 minutes. C'est pour ça que je vous disais, Sergueï, à un moment, il va bien falloir répondre à ces provocations de Vladimir Poutine, hein, du côté de l'OTAN.
C'est pas le problème, mais si l'OTAN répond à ces provocations, ça veut dire que l'OTAN rentre dans la guerre avec Poutine, le pays nucléaire à plus grand du monde. Et en fait, l'OTAN n'a pas envie, tout simplement, on constate. En fait, l'OTAN n'a pas envie de rentrer en guerre officiellement avec la Russie, et ça, on l'a compris déjà en 2022, parce qu'en fait, l'OTAN a fait pression à cette époque-là sur Zelensky, parce que Zelensky disait à cette époque-là, c'est un missile russe, et donc il faut réagir, parce que bien évidemment, l'Ukraine, enfin, dans son intérêt, c'est que l'OTAN comprenne que l'Union est aussi attaquée par la Russie, à ce moment-là, qui donne à l'Ukraine la totalité des forces militaires que l'OTAN possède, en quelque sorte, en fait, que l'OTAN s'engage aux côtés de l'Ukraine pleinement et non pas tout simplement au niveau de l'aide militaire ou financière. Mais l'OTAN clairement ne le veut pas. Mais le problème, Lise, c'est que si l'OTAN ne répond pas, c'est que ce bloc de défense, à ce moment-là, n'existe pas.
Et
à quoi il sert ?
Est-ce que la solution peut venir de Donald Trump, Sergueï, puisque lui, il a annoncé des nouvelles sanctions contre la Russie, notamment des sanctions économiques. Il propose que le monde entier, en gros, cesse d'acheter du pétrole russe. Est-ce que c'est de ce côté-là que ça va pouvoir venir une solution ?
Dans les médias, je dirais que non. Dans les médias, cette solution, c'est le bloc de l'OTAN. Bon, les États-Unis font partie de l'OTAN, donc il y a aussi la décision des États-Unis qui est prise en compte dans le décisionnel de l'OTAN. Mais Trump n'est pas le bon Dieu, et le truc, c'est que en fait, ces agressions se passent sur le sol européen, et donc l'OTAN doit répondre sur le sol européen pour prouver que cette organisation existe. Bon, après, bien évidemment, les États-Unis peuvent épauler les pays européens dans cette lutte contre la Russie, y compris par les sanctions, mais vous avez compris que Trump se conduit comme pratiquement agent d'influence russe, parce qu'il joue, non pas l'arbitre, mais il joue côté Poutine. Et moi, jusqu'à maintenant, il a quasiment rien fait. Et à chaque fois, c'est 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 50 jours plus tard, et il ne fait absolument rien. Et en fait, la proposition qu'il fait actuellement, c'est une proposition encore plus, disons, pernicieuse, parce qu'il dit, en gros, moi, je vais enclencher les sanctions si les Européens enclenche entièrement les sanctions. Et malheureusement, il a raison en disant cela. Parce que en disant que, par exemple, je vais enclencher les sanctions contre les pays qui achètent le pétrole, mais il faut que l'Europe arrête d'acheter le pétrole russe et le gaz russe. Et c'est le cas. Et pas uniquement pour la Slovaquie et la Hongrie, mais aussi pour un certain nombre de pays, y compris la France.
Y compris la France. Alors évidemment, c'est Volodymyr Zelensky qui a regretté que les déclarations des dirigeants occidentaux aient été nombreuses, mais que jusqu'à présent, la Russie n'a pas vraiment reçu de réponse par des mesures concrètes. Est-ce que l'OTAN va tout de même peut-être étendre son bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, donner un peu plus de défense à Volodymyr Zelensky, si elle ne veut pas elle-même entrer en guerre contre Vladimir Poutine ?
Non, mais en fait, la réponse la plus, entre guillemets, facile et la plus efficace aussi, c'est de défendre le ciel aérien de l'Ukraine, celle qui n'est pas occupée par les Russes. Et à ce moment-là, l'OTAN, effectivement, peut le faire du territoire polonais et du territoire roumain et d'autres territoires qui sont, qui ont, avec qui, Le Pen à la frontière commune. Et donc, ça, c'est la moindre des choses. Mais là, c'est la même chose. C'est la procrastination de l'OTAN depuis 3 ans et demi, maintenant que cette guerre pleine de Russie contre l'Ukraine dure, et l'OTAN est toujours hésitant. Bon, après, maintenant, vous avez compris que la chose est plus compliquée encore, parce qu'actuellement, en Biélorussie, il y a les manœuvres russes-biélorusses qui s'appellent Zapad 2025, qui réunissent 18 000 personnes, 18 000 militaires des deux pays, plus les techniques, et ils sont en train de faire les manœuvres pour étudier, y compris les lancements des missiles stratégiques potentiellement nucléaires. Et donc là, il y a toujours cette pression nucléaire de la Russie qui s'exerce, et le temps ne veut pas non plus faire l'escalade et pousser cette escalade jusqu'à la vraie guerre, jusqu'à la vraie Troisième Guerre mondiale.
Pour finir, Sergueï Jirnov, ça fait déjà bientôt 2 ans et demi que cette guerre en Ukraine a lieu. Est-ce qu'on envisage de la voir se finir bientôt ou pas du tout?
Non. Et franchement, tout le monde espère, mais à l'horizon visible, au fait, cette guerre, pour le moment, ne se termine pas, parce que Trump n'a pas voulu faire la pression sur Poutine, n'a pas voulu non plus donner suffisamment d'armes, comme il l'a promis. D'ailleurs, je vous rappelle que Donald Trump, pendant toute la campagne électorale de l'année dernière, disait qu'il avait le plan B si Poutine ne voulait pas la paix. Il donnerait à l'Ukraine autant d'armes qu'il n'a jamais vu. Et en fait, c'est des palabres. Trump, en réalité, s'est révélé être un président en parole, un président médiatique qui passe son temps à tweeter ou à faire des interviews devant les caméras et de ne faire rien en réalité. Et le problème, c'est que Poutine a suffisamment de réserves pour mener cette guerre assez longtemps, et l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de se défendre. Et donc, cette guerre risque de durer.
Merci beaucoup, Sergueï Jirnov, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et auteur de nombreux livres, notamment sur la guerre en Ukraine, comme l'escalade et l'engrenage. Bonne journée à vous, à très vite.